Vous écoutez France Culture.
Premier temps d'une semaine un peu particulière pour terminer cette saison de la Fabrique de l'Histoire, particulière parce qu'elle se tient à Montpellier à l'occasion des rencontres de Pétrarque dans la cour du rectorat, vous l'avez compris, à l'occasion des rencontres de Pétrarque, mais également de la semaine des idées qui accompagne ces rencontres de Pétrarque ici à Montpellier. La thématique des rencontres, le peuple a-t-il un avenir, nous a incité à tenter en 5 volets une histoire du peuple de l'Antiquité au 19e siècle, rien que cela, grâce aux ressources de l'Université de Montpellier. Demain, nous débattrons de l'époque médiévale, des révoltes populaires à l'époque moderne, ça sera mercredi, jeudi du peuple de la Révolution française et vendredi du peuple mythifié au 19e siècle, en particulier par les grands écrivains et les grands historiens qui étaient Michelet ou Victor Hugo. Et aujourd'hui, eh bien, nous reviendrons avec Perrine Kervran qui a préparé cette semaine avec nous et grâce aux textes qui seront lus pour nous par Isabelle Furst ici même sur l'époque antique avec deux spécialistes. Hélène Ménard, elle est maître de conférences en histoire romaine à l'université Paul-Valéry de Montpellier et auteur chez Champvallon de « Maintenir l'ordre à Rome, 2e, 4e siècle après Jésus-Christ ». Et Pierre-Louis Malos, il est professeur de langue et littérature grecque à l'université Paul-Valéry, ici même à Montpellier. Avec eux deux, nous allons essayer de comprendre ce qu'on entendait en Grèce et à Rome, surtout dans les époques tardives, quand on parlait du peuple et si ce démos ou ce populus était toujours considéré comme une force positive pour les sociétés qui l'accueillaient. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Bonjour à vous Hélène Ménard.
Bonjour.
Et bonjour à vous Pierre-Louis Malos. Je vais commencer avec vous Pierre-Louis Malos parce que vous êtes professeur de langue et de littérature grecque et donc en cela vous êtes intéressé justement par les mots, les verbes, la façon dont on justement conjugue ce terme de peuple à l'époque antique. Alors, et en particulier dans la période grecque. Comment dit-on le peuple, je ne sais pas, mettons à Athènes, à époque classique, il y a plusieurs façons de l'appeler ce peuple?
Oui, il y a plusieurs façons. Enfin, ça dépend de ce qu'on entend par le mot peuple, puisque le mot peuple lui-même en français a beaucoup de sens.
Exactement.
Si on prend le premier, le mot si on remonte à Homère, puisqu'il faut toujours remonter à Homère.
Toujours.
Dans le monde grec, on connaît Homère et on se réfère toujours, même pour le critiquer, hein, ce n'est pas un livre saint. Donc le mot c'est laos, hein, holaos, le peuple, le mot c'est, qu'on trouve chez Homère.
Et c'est le mot d'ailleurs qu'on trouve encore en Grèce contemporaine pour qualifier la question de peuple.
Oui, il existe toujours,
holaos,
hein, au sens du mot peuple, en effet. En fait, c'est un mot qui semble au départ signifier le peuple en mouvement, en marche, hein, une collection d'individus. Mm-hmm. Qui se dirige
quelque part
dans une certaine direction. Et chez Homère, bon, ça apparaît surtout dans l'Iliade, hein, dans le poème consacré à la guerre de Troie. Et donc le peuple, ce sont les hommes en armes, le peuple des guerriers. Mm-hmm. Et mais ce mot a continué à
cheminer,
à être utilisé. Et souvent, l'adresse au peuple, c'est souvent l'idée d'une adresse à une collection d'individus. Mm-hmm.
Alors tout de même, quand on pense peuple, antiquité, on pense démos parce que démocratie. Alors c'est le peuple aussi, le démos, en même temps que le laos, ou c'est quelque chose de différent, Pierre-Louis Malos?
Le démos, c'est le peuple au sens politique plutôt. Hein. Mm-hmm. Mais là aussi, au départ, ce n'est pas un mot politique, ça désigne, semble-t-il, un territoire défini, mm-hmm. unique. Et ensuite, par métonymie, les gens qui habitent
ce territoire.
Voilà. Donc, alors le démos à l'époque classique, c'est la collectivité. Il représente dans la cité d'Athènes. La cité d'Athènes est le démos. Donc, ce mot. La valeur de ce mot, donc, elle devient vraiment politique.
Oui, et donc c'est d'une valeur plus positive, pourrait-on dire, que la valeur du Laos, ou est-ce que c'est différent? C'est-à-dire qu'en gros, Demos et Laos, c'est à peu près la même chose, mais s'appliquant à deux espaces ou deux façons de voir différentes, d'un côté les hommes en armes et de l'autre côté les citoyens d'une nouvelle cité démocratique, Pierre-Louis Malos.
Oui, c'est plutôt cette valeur, c'est-à-dire que les deux mots représentent la même chose, enfin la même valeur, mais avec des colorations différentes.
Périne Caron.
Et est-ce qu'il y a, Pierre-Louis Malos, comme il y a souvent, surtout quand les élites parlent du peuple, une manière péjorative de nommer le peuple, de parler, alors comme on pourrait dire plèbe, comme on pourrait dire, voilà, dans certains moments, on a envie d'avoir des mots pour ça?
Oui, ben déjà, le mot démos peut avoir une valeur péjorative pour la part des aristocrates, hein, puisqu'ils s'opposent, le démos, aux aristocrates. Mais les mots plus péjoratifs sont en général hoi polloi, hein, les nombreux.
Les nombreux, ouais,
c'est la ça. Majorité. Ouais. C'est souvent dans la littérature philosophique, hein, donc on voit apparaître ça. La majorité pense que hoi polloi. Il y a aussi oklos, aussi, qui est la masse, hein, la masse méprisable.
Indéterminée, quoi.
Oui, et méprisable. Et, oui,
en fait. Est-ce qu'on se préoccupe, Pierre-Louis Malos, de ce que dit le peuple? J'ai cru lire dans un excellent ouvrage qui vient tout juste de paraître de Marie-Joséphine Verlings, qui s'appelle « Le démos avant la démocratie », que, par exemple, il y avait ce terme « démos fatis », ça veut dire « ce que dit le peuple », et on pourrait presque dire, dit-elle, l'opinion publique, c'est-à-dire est-ce qu'on se préoccupe de cette question-là ou est-ce que ça n'est pas très important, du moins dans la cité grecque classique, Pierre-Louis Malos, que de savoir ce que dit ce démos autrement que dans les, mettons, réunions instituées par les institutions athéniennes, par exemple, Pierre-Louis Malos?
Oui, enfin, il faut qu'il y ait démos, il faut un démos dont on se préoccupe, il faut qu'il y ait démocratie.
Oui, donc déjà, ça ne peut marcher.
La démocratie,
ça ne peut marcher que dans la tête classique.
Ça marche dans ce cas-là. Les orateurs s'adressent au démos. Maintenant, nous n'avons pas beaucoup de connaissances parce que la littérature que nous avons est une littérature souvent d'aristocrates, de dirigeants. Mm-hmm. Et nous ne savons pas toujours, enfin rarement, ce que pense le démos. Mais en fait, on sait qu'il pouvait s'opposer. Bien sûr.
Hélène Ménard, c'est amusant parce que je vous vois opiner du bonnet à certaines des propositions qui sont données par Pierre-Louis Malos, parce que visiblement, vous êtes spécialiste, vous, de la période qui court du 2e au 4e siècle de l'Empire romain. Et ce que dit Pierre-Louis Malos sur la société grecque, ça vous parle tout de même? Il y a à peu près les mêmes choses ou c'est un peu différent? Par exemple, ces différences de termes, ces façons de qualifier, est-ce que c'est la même chose ou pas?
Bien sûr. On retrouve à peu près les mêmes catégories de vocabulaire. La multitudo, donc la multitude, mm-hmm. Donc on va insister sur le côté nombreux, numérique du peuple. On retrouve le terme de tourba, hein, donc un peuple qui est...
La tourbe, alors.
Voilà, c'est... la tourbe, bah, évidemment le latin.
Oui. Hein,
permet de rapprocher un certain nombre de termes qu'on emploie toujours. Bon, le populus et la plebs. Donc le populus qui correspond au démos grec, donc le peuple.
Ça c'est le peuple, c'est le corps civique.
Le corps civique. Et la plebs, qui a donné évidemment en français la plèbe. Alors un terme qui a une longue histoire, hein, qui s'oppose, comme l'a dit Pierre-Louis, à l'aristocratie, hein, à l'élite, donc avec des variations selon les époques, le patriciat, la noblesse, etc. Et cette plèbe peut également être opposée à populus, hein, est une partie du peuple, mais peut également être opposée dans le vocabulaire utilisé dans nos sources littéraires, hein, en opposition à populus, au peuple.
Alors, vous êtes Pierre-Louis Malos, spécialiste de littérature grecque en particulier. Il y a une métaphore qui vient souvent, et déjà chez Homère, c'est la mer qui, d'une certaine façon, représente cette foule dont on ne sait pas très bien comment on peut la gouverner. C'est une sorte d'immense vague, de tsunami qui pourrait recouvrir la société de l'époque. Et c'est une métaphore assez souvent utilisée après Homère aussi pour parler justement de cette foule et de ce peuple, Pierre-Louis Malos.
Oui, mais c'est plutôt, alors, il faut passer à l'époque hellénistique ou ultérieure, parce que quand le monde grec est constitué de royaumes, avec de grandes villes, et non plus avec un démos délimité, et où finalement que tout le monde connaît, hein, oui. qui sont des individus connus de chacun.
C'est la même chose, Hélène Ménard. Vous avez une grande ville. Vous avez même la ville, donc au milieu de tout le reste, c'est-à-dire la ville de Rome, bien évidemment. Et là, évidemment, la grandeur de Rome par rapport à toutes les autres villes de l'Empire doit rendre un peu caractéristique cette façon de considérer justement cette foule comme une sorte de vague qui peut submerger les institutions.
Effectivement, la foule est comparée alors soit à la mer.
L'Énéide l'a repris d'Homère, voilà. J'imagine.
Voilà. Soit l'incendie. Ce sont deux forces que l'on ne peut pas contrôler. Et donc la foule, notamment la foule émeutière, donc une forme particulière quand même du peuple, est comparée à l'incendie dans les textes juridiques, pas seulement dans les textes littéraires.
Ah oui, Périne Caron.
Ce qu'il faut remarquer, et c'est assez étonnant, c'est que dès l'Antiquité, finalement, la notion de peuple, dès qu'elle est politique, il y a toujours une notion de menace. C'est-à-dire qu'à peine la notion de population, de foule, est établi que déjà on estime qu'il y a quelque chose de menaçant dans les termes.
Oui, la foule est effectivement une menace pour l'ordre établi par essence, par nature. Elle est censée être irraisonnable, irraisonnée, violente, fluctuante. Elle est souvent comparée à un jeune homme. Qu'il faut discipliner.
À une femme en colère, j'ai vu aussi.
À une femme ou bien aux barbares. Alors, on trouve ces comparaisons en particulier chez Amiens Marcellin.
Le jeune homme et le barbare, je vois. Effectivement, ça dessine une sorte d'univers mental assez intéressant en tous les cas. Mais on va peut-être justement, pour illustrer ces propos, Hélène Ménard et Pierre-Louis Malos, avoir le premier texte qui va nous être lu donc, par Isabelle Furst, ici même à Montpellier, lors de ces émissions donc, en direct de la cour directorat. C'est un même événement qui est vu par un historien et une pièce de théâtre. On est en 62 après Jésus-Christ, c'est la répudiation d'Octavie, fille de Claude et épouse de l'empereur Néron, le renversement par la foule des statues de sa rivale, Poppée, et enfin la répression de l'émeute par les soldats. On commence par, évidemment, Tacite, la source donc tirée des annales, lue par Isabelle Furst.
Alors, pleine d'allégresse, la foule monte au Capitole et vénère enfin les dieux. Elle renverse les effigies de Poppée, porte sur ses épaules les images d'Octavie, les couvre de fleurs, les place au forum et dans les temples. On va même jusqu'à chanter les louanges du prince en poussant des cris d'adoration. Et déjà, le palatium était plein de gens et de clameurs, quand des pelotons de soldats lâchés dans la foule, à coups de fouet et le fer en avant, la chassèrent en désordre. Alors se retourna la situation créée par l'émeute. Et les honneurs de Poppée furent rétablis. Elle, rendue toujours féroce par la haine et aussi par la crainte de voir soit la violence de la multitude s'exaspérer et se déchaîner, soit Néron suivre le penchant du peuple et changer de sentiment, se jette à ses genoux et déclare qu'elle n'est plus en état de lutter pour son mariage, qui lui est pourtant plus cher que la vie, mais que sa vie même est mise dans un péril extrême par les clients et les esclaves d'Octavie, qui, usurpant le nom de plèbe, ont osé faire en pleine paix ce qui arriverait à peine en guerre. C'est contre le prince qu'on a pris cette fois les armes. Seul a manqué un chef qui, en cas de révolution, serait facile à trouver. Elle n'aurait qu'à quitter la campagne et gagner la ville en personne. Celle dont un geste suffit, même en son absence, à provoquer des soulèvements. Autrement, quelle est donc sa propre faute? Qui a-t-elle offensé? Serait-ce parce qu'elle va donner une descendance légitime aux pénates des Césars? Le peuple romain préfère-t-il voir le rejeton d'un joueur de flûte égyptien élevé sur le trône impérial? Bref, si l'intérêt de l'État l'exige, que le prince fasse venir de gré plutôt que de force une femme qui commande en maîtresse, ou bien qu'il assure sa sécurité. Une juste punition et des remèdes anodins ont calmé un début de révolte. Mais si l'on désespère de voir Octavie être l'épouse de Néron, on saura lui donner un mari. »
Voilà donc pour ce premier texte tiré de Tacite. Alors là, on a quand même beaucoup de choses. Explication de texte, Hélène Ménard, usurper le nom de plèbe, c'est peut-être aussi faire quelque chose en pleine paix qui menace justement de guerre civile la cité grecque ou la cité romaine en l'occurrence. Et là, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a dans cette idée l'idée de la division qui est menacée par la séparation du corps civique, du corps social.
Oui, c'est ce que nos sources qualifient de séditio, aussi bien dans les textes littéraires que juridiques. Et c'est donc un acte extrêmement grave et qui est réprimé très, très sévèrement, évidemment. En effet, ici, il est question de la légitimité de l'empereur à travers ici son épouse, Octavie, on voit que à l'époque impériale, le peuple, alors avec ces deux visions, la plèbe ou bien donc les esclaves armés par Octavie contre Poppée, d'après celle-ci, cette dernière, donc ce peuple conserve un rôle dans la légitimation de l'empereur et dans le soutien qui peut être apporté à la famille impériale.
Oui, parce qu'une des grandes erreurs qu'on pourrait faire en regardant, et quand on lit votre livre « Maintenir l'ordre à Rome », en regardant cette période de la Rome impériale, c'est d'imaginer qu'il y a un empereur tout-puissant qui ne tient pas compte de cette foule, qui ne tient pas compte de ce peuple. Vous décrivez dans « Maintenir l'ordre à Rome » combien il est préoccupé la plupart du temps, ce princeps, ce prince romain, puisque c'est son titre dans les premiers siècles de l'Empire. Ce prince est préoccupé justement de ce que pense ce peuple romain, de ce qu'il voudrait faire, de ce qu'il pourrait faire, et donc de la menace qu'il peut représenter pour son propre pouvoir, Hélène Ménard.
Les rapports politiques à Rome ont toujours été régis par une interaction entre différentes forces, le peuple, les magistrats, le Sénat à l'époque républicaine, puis à l'époque impériale, effectivement, entre l'empereur, le Sénat, le peuple, donc que l'on qualifie soit de populus, de peuple, ou de plèbe. Et intervient un petit peu plus tardivement, mais je pense qu'on y reviendra peut-être plus tard, la population civile, le peuple, et puis les militaires.
On y viendra un peu plus tard. Pierrine Kervan.
Oui, et là, on voit bien dans ce texte, Hélène Ménard, que la force réprime la foule et calme l'émeute. Et vous dites pourtant dans votre travail que l'important, justement, ce qui devrait être le but de l'empereur, des forces au pouvoir, en tout cas, c'est d'éviter justement la force et de réussir à maîtriser, calmer la foule par la parole, et c'est là démontrer un réel pouvoir, une réelle autorité.
Oui, alors on a l'idéal et la pratique. L'idéal veut que le bon gouvernant, alors que ce soit l'empereur, que ce soit un notable local, n'ait pas allé justement jusqu'à la répression, mais par son charisme, par effectivement sa capacité à calmer la foule, à donner un certain nombre d'informations, n'est pas à faire agir la force publique, les soldats, parce que si la foule est une force irrépressible, les soldats représentent également un danger parce qu'ils répriment parfois un peu trop brutalement, un peu trop violemment.
Et c'est donc un échec finalement de faire appel à la force pour réprimer la foule ou...
Cela peut être présenté effectivement comme un échec.
Alors, deuxième version de ce même fait, la répudiation d'Octavie et les émeutes qui ont suivi dans Rome par pseudo-Sénèque. Donc, on va lire ce texte. Isabelle Fürst va nous lire ce texte. Et on commence par le messager. Que dit le messager, Isabelle Fürst ?
Que tous les soldats en faction devant la demeure de leur maître défendent le palais contre les attaques du peuple furieux. Les préfets dépêchent leur cohorte en renfort pour la ville. Loin de se laisser vaincre par la peur et de s'évanouir, la flambée de rage inconsidérée gagne en intensité. Quel vent de folie agite ainsi les esprits ? C'est l'amour d'Octavie qui ébranle ses bataillons déchaînés et les jette dans un crime immense. Apprends-moi leur audace et leurs intentions. Ils projettent de rendre à la fille de Claude les pénates de son père et sa part de l'Empire. Le lit de son frère, qu'occupe maintenant dans une union stable et harmonieuse, Poppée. Voilà ce qui met en feu l'esprit de ces gens trop attachés à Octavie. et qui les précipite inconsidérément dans des actes désespérés. Toutes les statues de marbre éclatant ou de bronze rutilant à l'effigie de Poppée gisent au sol, renversées par la foule à la force du bras et du glaive cruel. Ils entraînent avec des cordes, un par un, les membres disjoints qu'ils plongent dans la fange immonde et piétinent longuement. Leurs propos sont à la hauteur de leurs gestes, et je crains de les reproduire. Ils se préparent à mettre des barrières de feu autour du palais, au cas où le prince résisterait, refusant de livrer sa nouvelle épouse à leur colère et ses pénates à la fille de Claude. Conformément aux ordres du préfet, je vais de ce pas informer moi-même le prince du soulèvement populaire.
Voilà donc pour cette deuxième version, et on y découvre un qualificatif extrêmement intéressant pour le peuple. Le peuple, il a une qualité, pourrait-on dire, à Rome, c'est la fureur. Le peuple, il est furieux. Est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut, Hélène Ménard ?
C'est plutôt un défaut du point de vue des aristocrates, du moins. Effectivement, on trouve ce terme qui appartient au champ sémantique de la folie. Hein. Le furor, le furiosus, c'est celui qui agit sans limite, de façon totalement déraisonnée et qui renverse l'ordre établi, évidemment.
Sur ce point, Pierre-Louis Malos, vous n'êtes pas intervenu depuis un certain temps. Est-ce que, justement, dans la Grèce de l'Antiquité, justement, dans cette Grèce antique, on lui donne aussi des qualificatifs à ce peuple quand il se met en colère? L'Athènes colérique est-il furieux? Y a-t-il l'équivalent dans les mots utilisés par les écrivains, qui évidemment, ou les auteurs, qui sont souvent évidemment des auteurs eux-mêmes issus plutôt d'une classe aristocratique?
Mais dans l'Athènes classique, le peuple ne se met pas en fureur, puisque
c'est lui-même qui gouverne.
Donc, et il a le moyen de, quand un conseiller, un dirigeant ne lui plaît pas, il a le moyen de l'envoyer en exil ou de refuser ce qu'il propose. Donc il y a pas, on ne peut pas parler d'explosion populaire. Il ne peut y avoir d'explosion populaire qu'à partir du moment où il y a un pouvoir fort et extérieur au peuple.
Et qui est censé le représenter, mais qui quelquefois donc, se trouve disjoint de la volonté du peuple, et à partir de ce moment-là, donc, a la capacité de soit le réprimer, soit de le laisser faire.
Oui, mais ça ne peut pas arriver dans le système démocratique, puisque le système démocratique, ce n'est pas une, comme aujourd'hui, une élection et un pouvoir qu'on remet à des représentants, mais un contrôle continu. C'est-à-dire que chaque décision est votée par l'Assemblée et refusée ou acceptée.
Périne Cabran.
Ce qu'on peut noter aussi, c'est la façon dont les symboles sont manipulés, autant par les dirigeants que par la foule. Là, en l'occurrence, on voit que la foule sait que ce sont aux effigies qu'il faut s'attaquer, c'est les statues qu'il faut renverser, c'est les représentations des gouvernants. J'imagine que c'est la même chose dans la Grèce ancienne, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut s'attaquer aux symboles du pouvoir.
Oui, je pense que vous pensez à une partie de l'histoire grecque qui est plutôt ma spécialité, qui est
plus tardive.
C'est-à-dire qu'on est dans l'Empire romain, mais dans le monde oriental, dans toute la Méditerranée orientale, on est dans un monde grec qui garde des structures, des idées et la langue grecque essentiellement. Mmh. Et donc, c'est évidemment, à ce moment-là, on a un pouvoir et on pourrait dire aussi déjà dès l'époque hellénistique, c'est-à-dire après Alexandre, hein, à partir du moment où le monde oriental est divisé en grands royaumes, avec un roi tout-puissant qui gouverne, et là, il y a des révoltes. Et alors, ces révoltes existent pendant toute la période hellénistique, donc avant Jésus-Christ, et puis la période romaine, et ça va continuer à Byzance. Puisque bon, le monde byzantin, il y avait des émeutes et il y a certains empereurs byzantins qui ont été chassés par l'émeute.
Alors, ces émeutes ont des raisons qui sont diverses. Hélène Ménard, dans la Rome que vous connaissez bien, celle qui court du IIe siècle, du siècle des Antonins jusqu'au IVe siècle, ces révoltes peuvent être des révoltes manipulée par certains, mais la plupart du temps, il y a des raisons économiques ou des raisons frumentaires. Là, on se rapproche de causes qu'on connaît bien quand on étudie l'époque moderne, des ruptures de charges en matière d'alimentation, en particulier d'arrivée du blé à Rome, des choses comme ça peuvent provoquer des émeutes. Mais là aussi, c'est une crainte énorme du prince et de l'empereur que de voir se développer tout cela. Et donc, il faut tout faire en sorte, d'une certaine façon, pour que ça ne puisse pas arriver.
Oui, le prince met en place une administration urbaine, donc des augustes, et puis même on pourrait remonter à l'époque républicaine, puisque vous avez effectivement le souci toujours de l'approvisionnement de cette mégapole considérable que représente Rome dans l'Occident méditerranéen. Vous avez donc la prise en compte effectivement des conditions de vie de la population.
Mais ça, on connaît mal, et ça, c'est vrai que c'est une des choses qu'on découvre en vous lisant, effectivement, le souci du bon prince, d'une certaine façon, de voir la population de la ville, donc de Rome, disons, satisfaite, bien nourrie, n'ayant pas trop de capacité à trouver des raisons à une colère potentielle, Hélène Ménard.
La population romaine représente pour le prince un élément, là encore, de légitimation. Et il est évident que le prince ne peut pas se permettre d'avoir une population mécontente qui le remet en cause, qui remet son bon gouvernement en cause. Alors, une fois de plus, nous avons des sources qui émanent des aristocrates, des élites, et nous n'avons pas vraiment de connaissance directe des motivations de la foule. Donc on a une vision relativement péjorative de cette population romaine. Bon, je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent la formule, la fameuse formule de Juvénal, du pain et des jeux.
Voilà,
donc souvent...
Il fallait qu'on y vienne, on y vient à 9h32, c'est bon. on l'a fait, ça. Continue.
Et évidemment, des auteurs comme Ammien Marcellin, décrivant la population de Rome, décrit les vices de la population de Rome, son oisiveté, le fait qu'elle attende justement du pouvoir le ravitaillement, donc un bon approvisionnement, des spectacles, etc. Certains jeunes chercheurs à l'heure actuelle essaient de voir un petit peu ce qu'il en est et quelles sont les conditions de vie de cette plèbe romaine réellement. Et évidemment, on peut nuancer un petit peu tout ceci. C'est peut-être pas remettre en cause la vision aristocratique, mais en tout cas nuancer les conditions de vie de cette population.
Périne Quimbran.
Et ce qu'il faut souligner, c'est l'importance du discours, notamment dans ces moments de crise, où l'empereur ou le préfet n'hésite pas à se porter devant la foule pour parler, essayer d'apaiser la foule, utiliser des arguments rhétoriques. Alors dans vos textes, c'est assez amusant à lire, montrer ses enfants pour apitoyer la foule, pleurer un petit peu. Voilà, il y a tout un tas d'usages rhétoriques, vous dites inspirés de la justice, de ce qui se passe dans les procès, pour attendrir, calmer la foule.
Oui, on a toute une mise en scène, en fait, alors, essentiellement les préfets de la ville, de la ville de Rome. Quand je dis la ville, c'est la ville avec un V majuscule, donc Rome. On a effectivement toute une mise en scène, donc des préfets qui, confrontés à la mauvaise humeur populaire, donc les gens craignant que l'approvisionnement n'arrive pas à temps avant la fermeture de la mer, en vient effectivement à montrer ses enfants pour apitoyer la foule.
Ah, parce que vous parlez de préfecture, eh bien, les troubles à Rome sous Léontius, c'est tiré d'Ammien Marcellin dans Les Histoires, et ça nous est lu par Isabelle Furst.
Tandis que cette affreuse tourmente provoquait ces calamités et des exécutions collectives, Léontius, gouverneur de la ville éternelle, donnait maintes preuves d'être un juge éprouvé, fort prompt à entendre les causes, extrêmement juste dans ses décisions, bienveillant par nature, bien qu'il parût à certains un peu sévère, et trop enclin à condamner pour maintenir son autorité. La cause première de la sédition suscitée contre lui fut vile et légère. Le cocher Philoromus avait été arrêté par ordre. Le peuple tout entier le suivit comme pour défendre son propre bien et lança une terrible attaque contre le préfet qu'il croyait craintif. Mais lui, ferme et résolu, envoya ses policiers qu'il fit livrer à la torture. Il fit saisir et livrer à la torture quelques personnes sans que nul ne protestât ou résistât, et les frappa d'exil dans une île. Peu de jours après, la foule, avec la passion qui lui était habituelle, se souleva de la même façon, alléguant la pénurie de vin, et se réunit au Septem Zodium. Le préfet s'y rendit avec résolution, bien qu'il fût instamment prié par toute sa suite et ses policiers de ne pas s'aventurer dans une foule insolente et menaçante, encore enragée par la précédente émotion. Inaccessible à la peur, il continua tout droit, si bien qu'une partie de son escorte l'abandonna, quoiqu'il courût un danger imminent. Assis dans sa voiture, il considérait avec une confiance apparente et d'un regard perçant le visage des unités qui s'agitaient de toutes parts comme des serpents. Après avoir subi beaucoup d'outrages que j'ai honte de rappeler, il reconnut un homme qui se distinguait par sa grande taille et sa chevelure rousse. Il lui demanda s'il était bien Pierre Valvomérès, comme il l'avait entendu appeler. L'homme ayant répondu sur un ton insolent que c'était bien lui, le préfet, qui le connaissait de longue date pour un meneur séditieux, donna l'ordre, malgré les protestations multipliées, de lui lier les mains derrière le dos et de le suspendre pour le fouetter. Quand on le vit soulevé en l'air et implorant en vain l'assistance de ses camarades, la foule, qui un instant auparavant s'entassait, se dispersa à travers les différents quartiers de la ville et s'évanouit si bien que le plus acharné des fauteurs de troubles eut les flancs labourés par le fouet, comme dans le secret du cachot, et fut expulsé en piscénum. Là, ayant par la suite osé attenter à la pudeur d'une jeune fille de bonne famille, par jugement du gouverneur Patruinus, il fut condamné à la peine capitale.
Voilà donc pour cet extrait d'Amélie Marcelin. Ben, en fait, voilà, un peu de poigne et puis on y arrive. Cette foule, on la discipline en lui donnant un petit coup de schlag et on est tranquille. C'est un peu ce que nous explique Amélie Marcelin. Alors là, on peut se dire aussi, c'est la même chose. Est-ce que c'est un portrait d'un préfet, disons, sévère, injuste, mais néanmoins qui maintient l'ordre et qui permet justement que l'ordre soit rétabli dans la ville, que nous fait Amélie Marcelin? Ou est-ce que c'est véritablement le portrait d'une véritable révolte qu'il veut décrire par là? Est-ce que c'est une sorte de métaphore? On ne sait pas très bien, parce que ça, c'est un effet de source, Hélène Ménard.
Ce passage est assez connu et très, très intéressant, justement, parce qu'il nous permet de connaître le nom et la description physique
d'un meneur
de sédition. Donc, on ne peut pas remettre en cause, évidemment, l'historicité de ce passage, de cet événement. Néanmoins, vous avez raison d'insister sur le fait qu'on a quand même un effet de source. Amiens Marcelin insiste très largement, développe cette sédition, parce qu'il veut mettre en avant les qualités de ce préfet de la ville. Ah oui. Cette sévérité, cette fermeté vis-à-vis...
Sévère mais juste.
Voilà, sévère mais juste, cette sévérité vis-à-vis de ce que l'on pourrait qualifier de populace, de façon assez péjorative.
Oui, et puis cette populace qui se retourne, qui menace sa vie, mais qui, dès qu'on lui donne un petit exemple, est capable de se retourner et de se disperser dans la ville. Tout ça, c'est aussi pour montrer, effectivement, qu'elle est versatile, cette foule, Hélène Ménard.
Oui, c'est l'une de ses qualités, si l'on peut dire, la foule. Là encore, par définition, est versatile. Et donc, on peut jouer sur ses émotions.
Périne Carvan.
Et puis, je pense qu'il faut rappeler aussi des questions d'échelle. On le voit bien, ça aussi, dans votre travail. On oublie parfois trop souvent que Rome était une ville gigantesque à l'époque, plus vaste et plus peuplée que les villes médiévales qui viendront après. Et donc, il y a des effets d'échelle quand on pense aux arènes, quand on pense au théâtre. La foule, ça pouvait être quelque chose de gigantesque à Rome à l'époque.
Oui, alors je ne voudrais pas vous accabler de chiffres.
Bah, si, mais allez-y, on peut y aller.
La ville de Rome, on évalue la population de la ville de Rome à environ 1 million d'habitants. Alors, vous avez des variations selon les études, mais grosso modo 1 million d'habitants à l'époque impériale. Si l'on prend les lieux de spectacle, là encore, vous avez différents chiffres qui peuvent être proposés. Les théâtres, c'est entre 10 à 20 000 spectateurs. Le Colisée, donc l'amphithéâtre Flavien, entre 50 000, 80 000 personnes selon les estimations, et puis le Circus Maximus, le grand cirque, qui compterait environ, alors, bon, entre 150 000, 250 000 spectateurs, voire même dans une source tardive, les régionnaires, hein, jusqu'à 385 000. Bon,
oui, c'est-à-dire que, pour donner une petite idée, c'est le double du Stade de France au minimum. C'est-à-dire
voilà, le Colisée correspond à peu près au Stade de France et bon, le Circus Maximus est à une échelle
encore supérieure,
largement supérieure. Et c'est une caisse de résonance.
Alors, c'est une caisse de résonance, mais c'est un peu comme on évoquait Byzance tout à l'heure avec Pierre-Louis Malos, c'est un peu comme l'hippodrome à Byzance. C'est à la fois un lieu de mise en avant du souverain, parce qu'il faut que le souverain se rendent dans cet endroit-là, y compris pour faire annoncer des décisions, y compris pour pouvoir se faire acclamer par la foule. Mais cela, Pierre-Louis Malos peut se retourner contre lui aussi d'une certaine façon. C'est-à-dire que ces lieux sont des lieux doubles. Oui, sont des lieux à la fois de commémoration du pouvoir du souverain, mais aussi des lieux de menace sur ce pouvoir.
Oui, bien sûr, et pas seulement le souverain, parce que dans le monde oriental, il n'y a pas une ville. Il y a plusieurs villes, oui. il y a plusieurs métropoles. Il y a Alexandrie en Égypte,
Antioche
en Syrie et Constantinople. Et puis, il y a d'autres villes. Il y a Thessalonique, par exemple, où il y a eu une émeute assez célèbre à la fin du IVe siècle. Mais ces lieux de ce qu'on appelle le théâtre, c'est-à-dire l'endroit du spectacle, sont des endroits où le peuple peut s'exprimer. Peut s'exprimer, c'est-à-dire que en présence de l'empereur ou d'un gouverneur, on se met à crier du pain quand il y a disette, ou on se met à protester contre un tel ou un tel. Et quand il y a l'empereur, il y a des cas où l'empereur utilise un fusible, c'est-à-dire qu'il livre à la foule un gouverneur.
Ça, c'est sympathique.
C'est ce qui est arrivé à peu près au même moment que l'époque de Léontius à Rome. À Antioche, il y avait un vice-empereur, un César, qui s'appelait Gallus. Et comme il y avait une situation qu'il n'arrivait pas à maîtriser, il a dit au peuple, mais vous avez raison, et il leur a livré en quelque sorte le gouverneur local qui a été massacré.
Alors, on a justement un exemple tiré des écrits que vous avez vous-même traduits, je pense, Pierre-Louis Malos, Libanios en particulier. Donc, présentez-nous ce Libanios qui est assez peu connu, il ne faut pas le dire de la plupart de nos contemporains. Qui est Libanios?
Oui, il faudrait le... Il gagnerait à être connu. Hein, c'est
forcément, quand on a consacré une partie de sa vie à un auteur comme celui-ci.
C'est ce qu'on appelle un sophiste, mais à l'époque, ce n'est pas les sophistes de l'époque de Platon. C'est-à-dire, c'est un professeur de rhétorique, un intellectuel. Et il a écrit beaucoup de textes, et nous en possédons beaucoup. Ça se passe au IVe siècle après Jésus-Christ, et il vivait à Antioche. Et il donne témoignage. Ce que je viens de vous dire sur ce Gallus-là qui livre l'un de ses subordonnés, ça, on l'a aussi, on le sait, par l'intermédiaire de Libanios en grande partie. Alors, je pense que le texte là qu'on va entendre se réfère un peu plus tard à une époque c'est en 387,
exactement,
après Jésus-Christ. L'empereur est alors Théodose, mais il n'est pas à Antioche, il est à Constantinople. Et on apprend qu'il y a une augmentation d'impôts. Et alors, comme ça se passe dans ce genre de choses, il y a une lecture du décret impérial auprès des autorités, des personnages influents. Mais ces gens influents vont quitter la salle et vont essayer d'ameuter le peuple. Et ça marche peut-être un peu trop bien. Hein. Je pense qu'ils voulaient simplement marquer une manifestation et ils sont débordés.
On écoute cet extrait de Libanios lu par Isabelle Furst.
Ayant fait une sortie jusqu'au portique qui se trouve en avant du prétoire, ayant redoublé de clameurs, s'étant dépouillés de leurs manteaux, ils excitaient du geste ceux qui n'étaient pas encore gagnés par l'excitation. Les appelaient à participer à leur révolte. Ayant marché sur l'établissement de bains voisins, ils se mirent à trancher avec leurs couteaux les cordes auxquelles étaient suspendues les lampes qui servent à l'éclairage de nuit, signifiant de la sorte que l'ordre dans la cité devait reculer devant leurs désirs, que la loi n'était rien et que leur bon vouloir était tout. Ils jugèrent faible et indigne de leur courage de recourir à ces débordements ordinaires que sont émeutes et saccages de boutiques. Mais, tournant leur regard vers les nombreux portraits sur bois, les arrosant d'injures puis de pierres, ils riaient de ceux qui se brisaient ou s'emportaient contre ceux qui résistaient. Ensuite, jugeant les effigies en bronze de plus de prix et l'insulte commise sur elles plus intolérable, courant sur elles, ils les tirèrent pour les abattre en leur passant des cordes autour du cou. Certains sans les briser, d'autres en faisant cela aussi. Puis, laissant les statues aux gamins pour qu'ils jouent avec des objets si respectables, ils se rendirent quant à eux, avec du feu, à la demeure d'un homme qui ne leur causait aucun tort, mais qui était tenu pour tel par ceux qui refusaient d'obéir au décret. Et ils se mirent à incendier des bâtiments, à projeter de le faire à d'autres, y compris au palais, et s'ils n'avaient pris peur en voyant paraître arcs et archers, le feu aurait été trop fort pour qu'on pût l'empêcher de s'étendre à la plus grande partie de la ville.
Voilà donc pour cet extrait de Libanios qui nous raconte donc une émeute à Antioche en 387. Alors là non plus, on ne se trompe pas, on va quand même brûler un petit peu, faire du saccage, certes, mais surtout on va s'attaquer aux effigies des souverains, que ce soit des effigies en bronze ou des portraits des empereurs et de la famille impériale, parce que en fait, il faut trouver une sorte de support à sa colère, en l'occurrence Pierre-Louis Malos.
Oui, on connaît ça, on a connu ça jusqu'en plein 20e ou 21e siècle. C'est-à-dire, on renverse les statues. Il y avait apparemment, c'est comme ça qu'on le sait d'ailleurs, à Antioche, représentation de la famille impériale. Toute une série de. Enfin, il y a des portraits sur bois, portraits peints, et il y a aussi des statues de bronze. Et on renverse. Alors, il y a d'autres passages du même auteur. Il explique qu'après, les enfants jouent dessus. Mm-hmm. Hein, ils se sautent dessus. Et mal leur en prend d'ailleurs parce qu'il y aura des exécutions dans enfants. Lorsque on va avoir des dénonciations et donc il y a des enfants qui seront exécutés. Alors pourquoi ces exécutions, cette répression si brutale? C'est surtout parce que c'est la représentation de l'empereur. Ouais. Et donc mettre à mal une statue, c'est comme mettre à mal l'empereur lui-même.
C'est la querelle bien avant des icônes, bien avant effectivement ce qu'on a pu connaître dans l'Empire byzantin. Hélène Ménard, sur ce que vient de dire Pierre-Louis Malos.
Sans prendre à l'effigie de l'empereur, c'est s'en prendre au corps symbolique de l'empereur. Et évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui mérite la peine de mort.
Alors, il y a tout de même quelque chose qui m'épate, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre-Louis Malos, c'était la façon dont on prenait des personnages et on les livrait au peuple pour pouvoir être un peu tranquille quand on était un empereur. Vous racontez, vous Hélène Ménard, dans Maintenir l'ordre à Rome par Huchet Chamvallon, vous racontez comment Commode, il a un favori, il s'appelle Cléandre, en 190 après Jésus-Christ, mais bon voilà, la foule ne l'aime pas beaucoup, on ne sait pas très bien pourquoi, il y a plusieurs textes qui ne disent pas tout à fait la même chose. Enfin, toujours est-il que Cléandre n'est pas très apprécié par la foule romaine. Eh bien, les émeutiers partent du Circus Maximus, veulent venir jusqu'à la villa qu'occupe l'empereur via Appien. Et que va faire l'empereur? Il va leur livrer Cléandre, son fils, voire ses fils. Et puis comme ça, il sera un peu tranquille, ils seront déchiquetés par la foule. Et puis ensuite, l'ordre sera rétabli à Rome.
Oui, alors cet épisode de Cléandre est connu par différentes sources qui sont un petit peu contradictoires. Mais là, on a une mise à mort et le corps même du favori.
On sert de bouc émissaire, là, en l'occurrence.
Oui, le corps donc est lacéré, déchiqueté, dépecé, comme on l'a vu dans le texte de Libanios avec la statue. Et la sanction s'étend effectivement à la famille.
Ouais, c'est ça.
À la famille. Parce qu'en fait, là, la population aide en quelque sorte l'empereur à rétablir l'ordre. Le favori de l'empereur est considéré comme ayant mal conseillé le prince.
C'est jamais de la faute au gouvernant. C'est toujours de la faute au conseiller des gouvernants.
Et donc, il subit un châtiment populaire.
Ouais. Et la tête au bout d'une pique.
La tête au bout d'une pique, bien sûr. Les Romains sont des chasseurs de têtes. Ils aiment beaucoup couper les têtes.
Périne,
on n'a rien inventé, finalement. Et ce qui est intéressant aussi, vous racontez, Hélène Ménard, que la foule, donc, comme elle est ressentie comme menaçante, elle est très surveillée. Donc il y a différents corps militaires, d'autres corps de la ville qui surveillent la foule et qui surveillent notamment, qui sont les oreilles des lieux publics. Alors les tavernes, les bains, ces endroits où peuvent se fomenter les mauvais coups.
La population est effectivement sous surveillance. On ne connaît pas tous les mécanismes. Donc, effectivement, vous avez des gens qui sont spécialisés dans la surveillance de la population, dans la gestion de l'information, quelles sont les rumeurs qui courent, pour essayer de voir si quelque chose se prépare. On a également un encadrement certainement au niveau des quartiers, avec des responsables de quartier qui peuvent faire remonter des informations. Mais c'est assez mal connu.
Pierre-Louis Malos.
Oui, je voulais juste dire, Libanios a une formule que je trouve assez amusante. Il parle à un moment, il dit, les troupes qui sont stationnées en ville, pour les occasions, on a besoin de flèches.
Oui, c'est ça. Donc, ces occasions.
On
ne sait jamais.
Voilà.
Et aujourd'hui, on dirait on a mis les chars autour de la ville. C'est un peu la même chose, mais ça permet comme ça de montrer la menace avant même qu'elle ne soit exécutée. Alors, Hélène Ménard, tout de même, il y a une dernière partie sur laquelle je voudrais qu'on insiste, puisque votre livre Maintenir l'ordre à Rome est en deux parties et s'intéresse à l'arrivée d'une autre notion de peuple. Dans la Rome antique, c'est la notion de peuple lié au christianisme, et qu'effectivement, à partir de ce moment-là, il y a peut-être aussi concurrence, je ne sais si c'est une concurrence d'effigie ou une concurrence sur qui doit gouverner le peuple. En tout cas, avec l'arrivée des chrétiens, quelque chose de neuf est en train de naître, dites-vous, dans les villes romaines, et se perdurera jusqu'à, évidemment, la conversion de l'Empire sous Constantin. Et c'est quoi cette concurrence dans cette notion de peuple, justement, qui naît à ce moment-là?
Alors, je ne sais pas s'il faut parler de concurrence ou plutôt de glissement. C'est-à-dire que les chrétiens reprennent le vocabulaire et un certain nombre de pratiques qui existent dans le monde dans lequel ils vivent. Il ne faut pas oublier que les chrétiens sont avant tout des gens de leur époque qui vivent dans la cité, qui le revendiquent, qui revendiquent également évidemment l'adhésion à un monothéisme, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Mais les chrétiens, à partir de Tertullien, de Cyprien, reprennent le vocabulaire institutionnel romain et donc parlent de peuple ou de plèbe pour désigner les fidèles, la communauté des fidèles. Et de même que l'empereur peut être acclamé par la population, les fidèles font entendre leur voix, notamment lors des élections épiscopales en particulier. Donc ils ont un suffragium, un suffrage. Un droit de, non pas de vote, mais de prise de parole à ce moment-là.
Et donc, cela introduit un ferment de discorde possible à l'intérieur de la société romaine en particulier, des grandes villes que sont Rome, par exemple, ou Antioche, ou d'autres villes comme celle-ci?
On connaît effectivement des séditions au sein des communautés chrétiennes. Vous en avez une très importante qui a lieu à Rome dans les années 360-370 entre partisans de Damas et d'Ursinus, avec des affrontements violents. Des affrontements tout à fait violents.
Périne Quimbran.
Et vous aussi, Pierre-Louis Malos, dans vos textes, vous observez cette notion de peuple païen, de demos hellénicos, qui émerge avec justement l'arrivée de la chrétienté.
Oui, les païens n'avaient pas évidemment l'impression de faire d'être une communauté avant, puisque ils étaient tout le monde. Ouais. Mais au IVe siècle, Ve siècle, en effet, c'est né le sentiment d'être une communauté, un peuple. Une sorte de peuple. Et c'est une idée qui a été défendue principalement par l'empereur Julien, qu'on connaît sous le nom de Julien l'Apostat, et puis Libanios aussi, qui a défendu l'idée que même avec un empereur chrétien, on pouvait avoir au sein de l'Empire un peuple païen et de culture païenne.
Oui, c'est ces gens qui, à partir d'un certain moment, disent « mais laissez-nous le droit de continuer à honorer nos dieux », par exemple. Tous ceux qui envoient des lettres au Sénat romain pour dire « attendez, moi je crois encore à mes dieux anciens, maintenant ça n'est pas parce que justement un dieu nouveau et unique est arrivé dans l'Empire qu'il faut que j'arrête moi-même ma religion, la façon d'exercer ma religion ». C'est ça, Pierre Humas?
Oui, c'est l'idée qu'a défendue... Donc Libanios en a déjà parlé, cette idée de possibilité d'avoir un empire qui soit qui comprenne plusieurs religions.
Sur ce point, Hélène Ménard. Non, mais sur cette question qui est éminemment liée à l'arrivée de ces chrétiens et à la période qui précède la christianisation totale de l'Empire, on va quand même s'en servir un peu comme des boucs émissaires dans Rome de ces chrétiens en question. On va jouer de temps en temps sur la délation, sur la possibilité de les dénoncer, sur peut-être lancer, comme c'est le cas à Lyon en 190, vous le racontez, autour de Sainte-Blandine, lancer des bagarres, justement, dont les chrétiens sont les sujets.
À Rome même, on a peu de violence contre les chrétiens, à ma connaissance. En revanche, effectivement, dans les villes de l'Empire, on a effectivement des émeutes dirigées contre les chrétiens. Donc, en 177 à Lyon, hein, avec les martyrs, les premiers martyrs en Gaule.
Sainte-Blandine.
Voilà. Elle n'est évidemment pas la seule dans ce cas-là. Donc, on a un très long récit dans Eusèbe de Césarée, qui nous rapporte en particulier comment la population locale s'en est prise aux chrétiens, les chassant des lieux publics. Et donc là, l'autorité intervient pour mettre fin à ce type de désordre.
Mais alors, j'ai découvert, par exemple, tout de même, dans cette société romaine si bien réglée, c'était autorisé, même intéressant, de pratiquer la délation, par exemple, et à condition de ne pas le faire de façon anonyme.
Voilà.
Il fallait donner son nom, et à partir de ce moment-là, si on dénonçait quelqu'un, eh bien on avait le droit de le faire, et même c'était encouragé par les autorités. Expliquez-vous, Hélène Ménard.
Alors, la délation, c'est un terme qui, pour nous, à l'époque contemporaine, est extrêmement péjoratif. Oui, mais là, il s'agit d'un terme juridique. On a un délator qui va effectivement, dans le droit romain, dans le cadre du droit romain, désigner...
Dénoncer
des crimes. Mm-hmm. Le christianisme, être chrétien, c'est un crime, c'est un problème pour les autorités romaines. Donc, il est légitime de dénoncer les chrétiens. Jusqu'au IIIe siècle, on n'a pas de recherche systématique des chrétiens. Ce sont uniquement les citoyens qui viennent devant le magistrat, devant le juge, et qui disent « j'accuse un tel d'être chrétien ». Il devait se produire de temps en temps des accusations anonymes, puisque nous avons des lettres, des textes impériaux qui disent que non, il ne faut pas que les magistrats, que les juges acceptent des dénonciations anonymes. Et la délation ne choque pas à l'époque romaine, parce que c'est une pratique juridique encadrée.
Merci à vous, Hélène Ménard, et merci à Pierre-Louis Malos d'avoir été avec nous, donc, ainsi qu'à Isabelle Surs, que nous remercions pour avoir lu tous les textes de cette émission d'aujourd'hui, à Perrine Cavran qui m'accompagne toute cette semaine à Montpellier, à tout ce public qui est ici avec nous, dans la cour du rectorat. Et tous les jours, nous nous retrouverons donc entre 9h05 et 10h ici même. Et merci à Alexandre Jublin qui, à Paris, a préparé les textes que nous avons pu vous proposer. Donc, je rappelle, Hélène Ménard, que vous êtes auteur de « Maintenir l'ordre à Rome » chez Champvallon, 2e, 4e siècle après Jésus-Christ. Et Pierre-Louis Malos, eh bien, vous êtes le traducteur de Libanios, et donc on peut aller le lire en particulier dans les éditions des Belles Lettres. C'est cela, Pierre-Louis Malos?
Oui, enfin, c'est les premiers tomes. La suite est à paraître.
Bon courage pour la
suspense.
Suite. J'ai vu que vous apparaissiez l'autre jour dans des pages de courrier de Télérama. C'était bien vous qui protestiez contre la série Rome, parce que on faisait parler Cléopâtre en latin et non pas en grec, c'est cela?
Oui, je vais me faire mal voir à ce propos.
Non, au contraire. Non,
parce que je connais le responsable, et donc il m'a expliqué pourquoi.
Merci beaucoup Pierre-Louis Malos, merci Hélène Ménard, et merci à toutes les équipes de Radio France ici à Montpellier. On se retrouve donc demain entre 9h05 et 10h ici même à la cour du rectorat pour évoquer l'époque médiévale autour du peuple.